chapitre 38, c'est Ézéchias qui va crier à Dieu, parce qu'il est malade. Il voudrait avoir des jours meilleurs. Et il va arriver avec cette conclusion, verset 17. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut.
Parler des deux piliers du bonheur. Et nous sommes surtout arrêtés sur l'amour. Et nous avons vu que c'est à l'homme que Dieu a confié l'amour. Et il nous arrive de dire que nous aimons notre conjoint, notre épouse, et qu'elle ne se sent pas aimée. Et nous pourrions donc dire comment donc aimer l'autre pour qu'il ou elle se sente aimé. Mais nous avons compris aussi que la source de l'amour se trouve en qui ? En Jésus. Et que pour aimer vraiment, il faut que nous puissions entretenir une relation personnelle avec lui. Qu'en dehors de cette relation, aimer comme il voudrait ou il s'attend à ce que ses disciples, merci d'avoir souligné cela, ses disciples aiment, est impossible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, chaque fois qu'il est question de l'amour dans le texte biblique, l'auteur donne une référence. Aimez-vous, dit Jésus les uns les autres, comment ? Comme je vous ai aimé. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Donc, Jésus devient la référence en amour, comme il l'est d'ailleurs pour le pardon, que nous avons vu avant. Pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Ce soir, nous arrêtons essentiellement sur la foi face à la souffrance. Tous les chrétiens connaissent les trois premiers versets du chapitre 14 de Jean. Jean 14, 1 à 3. On pourrait me réciter ça par cœur, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un veut me réciter ça ? Je n'ai pas dit lire, j'ai dit réciter. Jean 14, 1 à 3. Merci. Texte que nous connaissons, j'ai appris ce texte, j'avais 15 ans quand j'étais au JIA, c'était les MV, même moins, MV à l'époque. Voilà plus de 2000 ans que Jésus a fait cette promesse à ses disciples. Ils y ont cru et ils sont tous morts sans avoir vu sa réalisation. Bien que n'ayant pas vécu en compagnie de Jésus, l'apôtre Paul a lui aussi cru en cette promesse. Il a prêché ce retour de Jésus. Il a invité ses contemporains à y croire. Il a même donné quelques détails concernant cet événement. Aux Thessaloniciens, il déclare, nous pourrions aussi réciter ce texte par cœur, mais quelqu'un veut-il lire ? Ils ont entendu l'apôtre, ils ont cru, et ils sont tous morts, sans avoir vu la réalisation de cette promesse. L'apôtre Jean, lui aussi, a cru à cette promesse. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il dit au verset 1 à 5, il donne même quelques détails, quelques précisions sur cette nouvelle terre. Et il dit qu'à ce moment-là, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'aura plus ni douleur, ni cri, ni douleur, car les premières choses disparues. Et il termine en disant, verset 5, que ces paroles sont certaines et véritables. Quand j'étais enfant à l'église, J'ai entendu ma grand-mère, d'abord, dire qu'elle attendait la venue de Jésus. J'ai entendu les prédicateurs, pasteurs, des anciens de l'Église, où nous avons grandi, mon épouse et moi, prêcher que Jésus reviendrait bientôt. Ils sont tous morts. Et voilà que Jésus n'est toujours pas revenu. Pourquoi ? Je demande pourquoi. Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu ? Et non pas est-ce que Jésus reviendra ? Parce que j'ai la certitude qu'il reviendra. Pas vous ? Pas vous ? Oui. J'ai cette certitude, j'en suis sûr. J'en suis sûr parce qu'il l'a promis. Et quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Le passé est là pour nous le prouver. Le problème, c'est l'attente. Les deux choses qui caractérisent le mieux notre société sont la vitesse et l'impatience. Aujourd'hui, il faut aller vite, le plus vite possible, et tout avoir tout de suite. Attendre est un des mots les plus populaires de l'Ancien Testament. Et il est étonnant aujourd'hui que ce mot est le plus impopulaire. On ne sait plus attendre. On ne veut plus attendre. Pourtant, la foi, la confiance en Dieu réside justement dans l'attente. L'attente de l'intervention divine. Noé a attendu combien d'années ? 120 ans. 120 ans avant que Dieu ne fasse tomber la pluie sur la terre. Abraham a dû attendre l'âge d'être grand-père pour avoir le fils de la promesse. Les enfants d'Israël ont attendu la libération promise par Dieu pendant combien d'années ? Merci. Pendant 430 ans. Et nombreux sont ceux du peuple qui sont morts avant la réalisation de cette promesse. Mais au moment prévu, Dieu est intervenu et a délivré son peuple. Siméon a attendu toute sa vie pour avoir la joie de tenir Jésus dans ses bras. L'attente est toujours longue, trop longue, toujours trop longue, quand on attend une délivrance ou une récompense. L'attente est trop longue et peut engendrer le doute. Surtout lorsque d'autres pensent ou disent que la chose qu'on espère ou qu'on attend ne se réalisera pas. L'apôtre Pierre se réfère au passé pour faire comprendre à ses auditeurs que quand Dieu dit quelque chose, il le fait en mettant les croyants en garde justement contre la tentation du doute. Écoutons ce qu'il dit dans 2 Pierre 3, verset 8. Si quelqu'un veut lire, 2 Pierre 3, verset 8. Dieu est hors du temps. Un jour ou 1000 ans ne fait aucune différence pour Dieu. Et l'apôtre rassure les croyants en disant, verset 9, que le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent ou le croient, mais qu'il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. À la question pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu ? Je pourrais répondre ou reprendre simplement la réponse que donne l'apôtre et dire que Jésus use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Donc, que Jésus n'est pas encore revenu parce qu'il nous aime. Mais je pense que certains auront du mal à comprendre cela. Comment, en effet, comprendre que le fait que Jésus ne soit pas encore revenu soit un acte d'amour, alors que je l'attends, que je soupire après sa venue? Comment comprendre cela, alors que je suis conscient que tous les hommes ne l'accepteront, n'accepteront jamais le salut que Jésus propose? Comment percevoir l'amour de Dieu alors qu'il nous a préparé une place, dans un monde où il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni larmes, ni cris, ni souffrances, et qu'ils ne viennent pas nous prendre pour nous y emmener. C'est aussi la même question que nous nous posons lorsque Dieu reste silencieux, en tout cas lorsqu'il semble être silencieux à nos questions et à nos prières. Pourquoi ? Pourquoi Jésus ne vient-il pas pour nous prendre alors que nous l'attendons et qu'il voit nos luttes, qu'il voit nos souffrances, etc. J'aimerais ce soir nous aider à comprendre cela en me basant sur un récit biblique que nous connaissons bien, mais que je nous invite à relire dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 1 à 6. Je demanderai à quelqu'un de bien me lire ce texte de ce côté-là, s'il vous plaît. Réaliser ce récit. Nous sommes les amis de Jésus. Quand il est fatigué ou qu'il veut prendre un peu de repos, c'est chez nous qu'il vient. Car il connaît le calme de notre modeste demeure, il sait qu'il sera bien reçu et qu'il trouvera toujours quelque chose de bon à manger parce que Marthe, notre sœur, est une excellente cuisinière. Lazare, notre frère, est malade. Et nous savons parfaitement que si Jésus était là, il le guérirait. Il le guérirait non seulement parce qu'il en est capable, mais surtout parce qu'il l'aime. Et je devrais dire, comme en tant que frère de Lazare, ou sœur de Lazare, je veux dire parce qu'il nous aime. L'évangéliste ne manque pas d'ailleurs de dire au verset 5 que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Comme Jésus n'est pas loin, nous décidons avec Lazare de lui envoyer un SMS. Jésus, Lazare est malade. Mais comme il a toujours beaucoup à faire et très occupé, et que nous voulons qu'il vienne vite, nous allons ajouter quelque chose. Celui que tu aimes. Voilà. Jésus, Lazare, celui que tu aimes est malade. C'est bien comme ça. Hop, on envoie un SMS. Notons en passant que Marthe sait que Jésus aime Lazare. Elle n'a aucun doute à ce sujet. Elle le dit d'ailleurs. Et pour elle, comme pour nous qui sommes ici ce soir, la seule réponse d'amour possible, c'est laquelle ? J'arrive. C'est qu'il vienne vite pour éviter que notre frère ne meure, en tout cas pour le guérir, parce qu'il en est capable. Jésus reçoit le SMS. Il prend connaissance de ce message. Et nous, les disciples qui sommes avec lui, nous sentons bien qu'il se passe quelque chose. Son visage a marqué, il y a une marque de tristesse, une expression de tristesse sur son visage. Et voyant que nos regards sont un peu interrogateurs, il nous dit, à nous, ses disciples, Lazare, notre ami, est malade. Alors, nous, les disciples, connaissant l'amour qu'il avait pour Marthe, Marie et Lazare, nous disions que nous attendions à ce qu'il laisse tout et qu'il aille à Béthanie afin de guérir Lazare. Parce que nous savons combien il aime la famille. Mais nous l'avons entendu dire quelque chose comme la maladie n'était pas à la mort, donc pas d'urgence. Et nous avons continué à l'accompagner et l'assister. Dans la maison de Béthanie, le téléphone sonne. C'est un message. C'est certainement Jésus qui a répondu. C'est bien cela. Et nous n'en croyons pas nos yeux. Nous croyons qu'il allait nous dire qu'il vient tout de suite. Mais il ne dit même pas qu'il viendra. Nous n'osons pas le dire à Lazare. Parce qu'il serait vraiment déçu. Mais il a entendu la sonnerie du message qui est arrivé. Alors, comme Marthe n'a pas le courage de lui dire, Marthe lui dit, oui, c'est bien ça, c'est Jésus qui a répondu. Et Lazare dit, à quelle heure arrive-t-il ? Marthe n'a pas le courage de dire à Lazare la réponse de Jésus, elle lui donne le téléphone. Et Lazare lit le message. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Marthe s'attendait à ce que le visage de Lazare exprime de la déception, mais au contraire, il semble plutôt être encouragé, rassuré par ce message. Alors, Marthe lui dit, ça va ? Et il répond, oui, ça va. Jésus dit que je ne mourrai pas. Marthe paraît surprise par la réaction de son frère, mais il y croit. Lazare, lui, ne lâche pas le téléphone comme pour s'accrocher à cette promesse. L'évangéliste rend ce récit encore plus dramatique par les mots « or » et « encore » qu'il utilise. Au verset 5, il dit « or ». La conjonction « or » indique une opposition, une incompréhension entre ce qui se fait et ce qui devrait normalement se faire par rapport à une situation donnée. Avec cette conjonction, Jean dit que l'attitude de Jésus est incompréhensible, qu'elle est un décalage par rapport à la situation. Or, dit-il, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et bien que Jésus aime Marthe, Marie et Lazare, lorsqu'il apprit la nouvelle, eh bien, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Encore. Encore est un adverbe qui indique trop. Trop par rapport à ce qui devrait être. En écoutant Jean, nous comprenons que, logiquement, le texte devrait être, comme Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, il partit tout de suite pour Béthanie. Mais il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Les heures s'écoulaient lentement de la petite maison de Béthanie. Lazare passa la journée avec le téléphone en main, comme pour s'accrocher, je le disais, aux paroles de Jésus. Cette maladie n'est point à la mort. Mais son état empirait, au grand désespoir d'ailleurs de ses sœurs, qui se regardaient souvent dans un silence interrogateur. Qu'est-ce que tu penses ? Tu crois que Lazare passera la journée ? Et Jésus, pourquoi ne vient-il pas ? La journée se passa. Chacun espérait voir Jésus arriver au moment ou à un autre, au moins recevoir un SMS disant qu'il arrive. Mais rien. Rien. Lazare mourut et fut enterré sans avoir ni vu ni entendu son ami Jésus. La maladie et la mort de Lazare, c'est le monde dans lequel nous sommes. Ce monde qui est malade et qui va vers sa fin. Dans ce monde, il y a des personnes, des hommes, des femmes qui, comme Marthe et Marie, savent que Jésus seul peut apporter une solution, que Jésus seul peut mettre fin à l'angoisse, aux souffrances de ceux qu'il aime, qui l'aime et qu'il aime. Alors, pourquoi ne vient-il pas ? Il n'est pas rare d'ailleurs que le fait qu'il ne vienne pas conduit à se poser des questions au sujet même de son amour. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ? Et il n'y a pas que les non-croyants qui se posent cette question. La souffrance conduit des croyants aussi à se poser des questions concernant même l'amour de Dieu. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ont dû aussi se dire, il disait qu'il nous aimait. Il disait qu'il nous aimait. On le croyait. Et il n'a rien fait pour empêcher que notre frère ne meure. Et nous pouvons imaginer tous les questionnements qui se posent dans cette petite maison de Béthanie concernant l'amour de Jésus. L'humain cherche toujours à établir ce lien entre l'amour de Dieu et le malheur des hommes. Face à la souffrance, les croyants réconfortent ou encouragent ceux qui souffrent par des paroles inspirées, soit par l'apôtre Paul qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou encore le Seigneur ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais qu'avec l'épreuve, il nous donne les moyens d'en sortir. Sous-entendu que Dieu est au contrôle de chaque événement qui surgit dans notre vie et fait concourir toutes choses au bien de ses enfants. Il arrive même à certains croyants de remercier Dieu pour les épreuves qu'il leur envoie. Il n'est pas rare d'entendre dire « C'est la croix que le Seigneur me donne ». Vous n'avez jamais entendu ça? Oui? Bon, on est sur la même planète alors. Ouais. C'est la croix que le Seigneur me donne. Comme si c'était de son fait, même lorsque l'épreuve est la conséquence d'erreurs conscientes ou inconscientes. J'aimerais nous dire ce soir que Dieu n'est ni un manipulateur, ni un être qui s'amuserait avec la vie des hommes. Dieu n'est pas derrière chaque problème que nous rencontrons. Il ne s'amuse pas à nos dépens. Il nous envoie toutes les difficultés que nous rencontrons pour voir, par exemple, jusqu'où nous pouvons supporter la souffrance. L'apôtre Jacques déclare dans le premier chapitre de son épître, dans Jacques 1, 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Pourquoi ? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. » De nombreux problèmes surgissent dans la vie, dans la condition humaine, parce que l'homme est mené par la convoitise. La convoitise est à la base de tous les péchés. Elle est à l'origine de toutes les transgressions de la loi de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu ne tente personne. Nous venons de le lire. Si Dieu ne tente pas, c'est qu'il ne soumet pas les hommes à des épreuves qui amènent le mal, qu'il soit physique ou moral. L'histoire de Job, que nous connaissons d'ailleurs, nous permet de comprendre, premièrement, que Dieu est témoin de toutes nos tentations. Nous l'avons d'ailleurs dit samedi soir. Nous avons dit qu'il est à nos côtés. Le livre de Job nous permet de comprendre, deuxièmement, que Dieu prend acte de nos souffrances et de nos malheurs, puisque, comme nous l'avons dit aussi samedi soir, il se présente comme un conseiller. Le livre de Job nous permet de comprendre, troisièmement, que Dieu assume nos épreuves en même temps que nous, puisque, comme nous l'avons dit aussi samedi soir, il se présente comme un partenaire pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être libres et heureux. Dieu n'a pas empêché au mal d'entrer dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas évité à Job toutes les souffrances que nous connaissons. De même, Dieu ne va pas nous préserver, nous éviter des souffrances. Mais à chaque fois et dans tous les cas, Dieu a fixé les limites. J'ai envie de dire amen. Mais peut-être pas vous. Mais je crois qu'il est bon de savoir que Dieu n'est pas à l'origine de nos souffrances, qu'il les vit avec nous et que, loin de nous laisser nous débattre de nos souffrances, il limite les conséquences, les effets négatifs de la souffrance. Il fixe les limites. Si Dieu n'était pas intervenu en Éden, le monde d'aujourd'hui serait sans espoir. Mais Dieu a promis la victoire du Christ sur le serpent. Si Dieu n'était pas intervenu dans l'histoire de Job, Job serait mort sous les traits du diable. Mais Dieu a fixé la limite en disant seulement ne touche pas à sa vie. Si Dieu n'était pas intervenu dans bien des situations difficiles que nous avons connues, nous ne serions probablement pas là ce soir. Ce qui est clair, c'est que Dieu peut soutenir ses enfants en toutes choses, et il le fait. Dieu peut faire concourir toutes choses, bonnes ou mauvaises, pour le bien de ses enfants, et il le fait. Je dis ses enfants parce que ce sont eux les premiers concernés. Ce sont eux, non pas parce qu'ils aiment Dieu, non pas parce qu'ils lui obéissent, ils sont fidèles en tout, mais parce que Dieu nous aime et veille sur nous pour notre bonheur. Si Dieu s'engage en toute chose à agir pour notre bien, il est nécessaire pour nous de croire que rien n'échappe à son regard. La Bible donne un premier enseignement sur l'origine de la souffrance de l'homme. Dans le livre de la Genèse, Dieu commande à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et lui dit que le jour où il en mangera, il mourra. À cause de la désobéissance de l'homme à cet ordre, non seulement la famille humaine est touchée par la souffrance, mais la création tout entière souffre. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul déclare, Romains 8, 19 à 23, que la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dieu n'est nullement la cause de nos maux, de nos souffrances. Ils sont une conséquence de la désobéissance. La Bible dit même que la création soupire après la délivrance. La souffrance est entrée dans le monde, non pas à cause de la volonté ou de l'indifférence de Dieu, mais à cause de la désobéissance de l'homme. La seule souffrance dont Dieu est responsable, c'est celle de Jésus venant dans le monde et prenant sur lui le péché de l'humanité. Reconnaissons que cette souffrance-là aussi est injuste, comme nous l'avons déjà dit, mais elle est due à l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Si nous reconsidérons le récit de la mort de Lazare, nous comprenons que le silence de Dieu ou le fait qu'il ne se précipite pas tout de suite à Béthanie à l'annonce de la maladie de Lazare ne signifie pas que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas, ni qu'il est indifférent, puisqu'il prendra lui-même l'initiative de se rendre à Béthanie. Nous lisons au verset 11 de Jean 11. Après ces paroles, il, Jésus, leur dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. » C'est lui qui qui prend l'initiative d'aller à Béthanie. Après l'enterrement de Lazare, des amis sont venus pour encourager les deux sœurs, mais toujours pas de nouvelles de Jésus. On n'a même pas jugé bon de lui dire que Lazare était mort, puisqu'il n'a pas daigné répondre à l'appel des deux sœurs. Jésus, c'était l'espoir déçu. Jésus était-il vraiment un ami? Parce que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est ce que dit la parole de Dieu. Lui, Jésus, n'a manifesté aucun intérêt, apparemment, en tout cas. Il avait dit que cette maladie n'était point à la mort, et voilà que notre frère est mort. Pouvons-nous continuer à lui faire confiance? Nous pouvons aussi imaginer les propos de ceux qui étaient dans la maison. Marthe, elle nous a dit qu'elle avait informé Jésus de la maladie de Lazare, mais elle n'est pas venue. Pourtant, il disait qu'il les aimait. Il disait qu'il aimait et n'a rien fait pour le guérir, alors qu'il guérit tous les autres qu'on lui amène. Il a dit que cette maladie n'était pas à la mort, mon œil. On peut imaginer tous les commentaires que pouvaient faire les gens qui étaient venus donc encourager, consoler les deux sœurs. C'est exactement ce qu'expriment les hommes d'aujourd'hui quand ils disent « Mais s'il y a un Dieu, pourquoi n'intervient-il pas ? Ou si Dieu est amour, pourquoi ne fait-il rien pour venir au secours de ceux qui souffrent ?» 3 jours après, voilà Jésus. Il vient. Il vient au moment où on ne l'attendait plus. Marthe voit qu'il est toujours le même. Son visage exprime toujours autant l'amour. L'amour que nous ressentions quand il venait à la maison. Il est toujours aussi calme que par le passé. Elle se demande, mais s'il ne sait pas que Lazare est mort, eh bien, elle se dit en même temps, il doit au moins le comprendre puisqu'il voit que je porte le deuil. Mais elle se décide tout de même de lui dire, alors elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Apprenant que Jésus était là, Marie court aussi vers lui et lui tient les mêmes propos. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Autrement, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Nous t'avons attendu. Tout le monde t'attendait. Pourquoi n'es-tu pas venu? Jésus sentait dans les propos des deux sœurs non seulement la souffrance, mais le désir de comprendre pourquoi. Pourquoi n'est-il pas venu? Alors, calmement, il leur dit. Je voulais venir au moment où j'ai reçu votre SMS, mais je ne suis pas venu parce que je vous aime. Comment cela? Comment cela, dit Marthe? Parce que tu nous aimes, tu as laissé mourir mon frère? Je ne comprends pas. C'est pourtant cela, dit Jésus. Je voulais que vous compreniez que je suis la résurrection et la vie, et que si vous le croyez, Lazare peut être ramené à la vie. Mais je le sais, dit Marthe. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Non, 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 lui répondit Jésus. Pas au dernier jour. Je ne comprends pas, lui dit Marthe. Je ne comprends pas. Alors, Jésus expliqua aux deux sœurs. Vous m'avez beaucoup aimé. Marthe, tu faisais tout pour que je sois bien reçu et que je ne manque de rien quand je venais chez vous. Toi, Marie, tu as montré à quel point tu m'aimais en répandant sur mes pieds un parfum de grand prix avant de les essuyer avec tes cheveux. En agissant de la sorte, vous avez fait pour moi plus qu'aucun autre aussi parce que je vous aime. Je voulais, dans cette circonstance, faire plus pour vous que pour aucun autre. Vous voyez, dit Jésus, si j'étais venu quand j'ai reçu votre SMS, j'aurais guéri Lazare. Comme j'ai guéri tous les malades qui venaient à moi. Mais parce que je vous aime plus que les autres, j'ai retardé ma venue pour vous donner plus que les autres. Ainsi, vous ne serez pas témoin ou voir l'objet d'une simple guérison, mais d'une résurrection. Et Jésus ressuscita Lazare. Marthe et Marie, mais aussi tous ceux qui avaient regretté que Jésus ne soit pas venu pour guérir Lazare, ceux qui l'avaient critiqué, ceux qui avaient douté de lui, compris combien ils avaient été témoins que Jésus ne soit, ils avaient été donc importants, que Jésus ne soit pas venu plus tôt, mais surtout combien Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Nous n'avons peut-être pas fait attention, mais la foi est au cœur du récit de la résurrection de Lazare. Après avoir dit ouvertement à ses disciples que Lazare était mort, Jésus leur dit « Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que j'étais là, afin que vous croyiez. » Après avoir entendu Marthe exprimer aussi au verset 24 sa foi en la résurrection, Jésus lui dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Verset 26. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marthe lui dit, verset 27, « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » La foi est au cœur de ce récit. Parce que la souffrance est un de ses plus grands ennemis. C'est dans l'épreuve que le doute s'installe. C'est lorsque, lors de situations délicates, difficiles, telles un divorce, une rupture amoureuse, la perte d'un être cher, le licenciement, de mauvais résultats d'examen, malgré le travail fourni, des fins de mois difficiles, la maladie, le deuil, etc. C'est dans ces moments-là que la foi vacille. Jésus reviendra pour mettre un terme définitif à ce qui rend douloureuse la condition humaine, la maladie, les souffrances physiques, morales, le manque d'amour, l'injustice, la violence, la méchanceté et surtout la mort, qui est la conséquence la plus dévastatrice du péché et à laquelle seul l'amour tout-puissant du Dieu de la vie pourra mettre fin. Dans les récits les plus passionnants de la Bible, les gens ont toujours attendu que Dieu intervienne. Et Dieu est toujours intervenu au moment favorable. La Bible nous dit aussi que ceux qui ont attendu l'intervention divine n'ont jamais été déçus. Le message que le prophète Sophonie a adressé au peuple de Dieu d'antan vaut aussi pour nous qui aujourd'hui marchons dans ce monde sur des chemins difficiles où nous nous blessons, où nous sommes fouettés par les difficultés de la vie qui nous font soupirer de plus en plus après la venue de Jésus. Lisons ce que dit le prophète dans Sophonie 3, verset 17. Que quelqu'un veut lire. Sophonie 3, 17. Dieu est où ? au milieu de toi. Et croyez-moi que quand il est au milieu de toi, il sait parfaitement tout ce qui se passe. J'ai dit tout à l'heure que la souffrance conduit au doute, et même à renier Dieu. Souvenez-vous, on a parlé de Job. Que dit Madame Job à son mari ? Renie Dieu et meurs. Tu persistes à demeurer fidèle. Renie Dieu et meurs. Ne nous décourageons pas. Notre Seigneur reviendra. Il reviendra au moment prévu. Et ce sera la fin de notre périple sur cette terre. J'aimerais, en terminant, nous laisser le message qu'un autre prophète adressa au peuple de Dieu, qui lui aussi attendait l'intervention de Dieu. Nous le trouvons dans Habacuc, chapitre 2, verset 3. C'est une prophétie. Une prophétie dont le temps est déjà fixé. Déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le jour vient où nous vivrons à jamais avec notre Seigneur dans ce pays magnifique que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment et qui l'attendent. Ce pays où il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni cris, ni douleur, ni souffrance. Choisir la vraie vie, c'est choisir de croire au nom de l'amour que Dieu a pour nous, qui reviendra. Puisse notre prière être, Seigneur, je te loue pour ton amour. Donne-moi la patience pour attendre le moment où je te verrai venir en gloire.